Voilà, bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. Vous écoutez Afrique Plus sur CHOFM. Nous voulons dire, avant de commencer, merci à l'équipe Down on the Range. Aujourd'hui, c'est samedi 19 avril 2008. Ottawa dit bonjour à Calgary. André Mulumba, bonjour.
Bonjour Jean-Marie Jamais, bonjour tout le monde. J'espère qu'ils sont réveillés comme nous autres.
Voilà, l'Afrique se porte bien. Vous écoutez Afrique Plus. L'avant-goût de la conférence débat de Madame Nathalie Mondin, professeure au département de sociologie et d'anthropologie à l'Université d'Ottawa, qui se sera cet après-midi, en fait. La période après la Deuxième Guerre mondiale a vu l'émergence du concept du développement dans les champs des relations internationales et la mise en place des principales institutions chargées de mettre en œuvre les actions et politiques.
Nashville 2-1 in overtime to take a 3-2 series lead. Three more series could wrap up soon. Montreal's at Boston. The Canadiens are up 3-2. This afternoon, Philadelphia visits Washington with the Flyers up 3-1 and Minnesota's at
jail. It's Wendy.
My wife is crazy about shoes. Her.
Est-ce que vous me battiez là avec moi? André Mulumba, est-ce que vous êtes là? André Mulumba, est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là?
Oui, je suis là, oui.
Ah, parce que j'avais un retour, j'avais autre chose que j'écoutais à l'oreille. Là.
Je ne sais pas quel est le retour, moi j'écoutais, tu parlais de la conférence qui devait se tenir à l'Université d'Ottawa.
Oui, tout à fait.
Oui, en même temps, moi je pensais à revenir à l'émission africaine avec la mort de Aimé Césaire, c'est-à-dire, comme tu le sais, le 17 avril, il est mort. C'est en fait toute la presse africaine francophone qui rend hommage au défunt poète martiniquais.
Oui.
Voilà, qui a en quelque sorte rend à Césaire ce qui appartient à Césaire, comme les journalistes le disent.
Voilà, donc Aimé Césaire qui a été un des derniers chants de la négritude.
En fait, c'est un spectateur désolé, révolté de la situation en Caraïbe qui arrive à Paris au début des années 30 et lui fonde avec le poste d'Assengor. Et Léon Contrat d'Amasse, l'étudiant noir, qui était une revue dans laquelle il parlera pour la première fois de la négritude en 1934. Alors, Sidoy aussi, par exemple, rappelle que la négritude, c'est courant de pensée qui prenait la reconnaissance des noirs en tant qu'êtres humains, doués d'intelligence et de conscience. Alors, tu vois que, à l'époque, c'était une revue très intéressante pour tous les étudiants qui étaient en Europe, qui se préparaient pour l'avenir de l'Afrique.
Voilà, André Mulumba. Donc, à 7h10, nous allons chercher Madame Nathalie Mondin, que nous aurons en entrevue ici à Ottawa. Et après ça, nous serons à Montréal, nous irons chercher le professeur Kanambi, qui nous parlera de la diaspora Bushende. Et voilà, donc, on reviendra à Calgary pour le point, les 5 minutes pour parler de ce que les presses internationales et africaines disent.
Voilà, je reviendrai avec un point sur la mort de M. Césaire, et puis il y aura aussi quelque chose sur la Côte d'Ivoire. En fait,
le président Laurent Gbagbo qui est aux États-Unis et
qui est un quotidien ivoirien, s'intéresse à Guillaume Soro. On va un peu parler de Guillaume Soro. Et en plus, tu sais qu'il y a eu une catastrophe aérienne au Congo, il y a eu beaucoup de morts du côté Goma, on va aussi un peu essayer de jeter un coup d'œil. Mm-hmm. Par-ci par-là, tu sais qu'au Cameroun, Paul Biya s'est maintenu au pouvoir pour toujours, et il a changé la constitution, cette fois il n'y a plus de limitation de son mandat, et John Fundi a lancé un mot d'ordre pour qu'il y ait ce qu'il appelle des nationales le lundi 21 avril, donc... On va essayer un peu de parler de tout ça à l'émission africaine.
Voilà. Alors, il est 7h08, mesdames et messieurs, on vous demande de rester là et on aura en fait un point d'entrevue de M. Cheikh Fanta Madi. On vous a prévu ça la semaine dernière. On va voir avec les intempéries du temps ce qu'on peut faire. Alors, André Mulumba, nous, on se retrouve dans quelques minutes alors.
Voilà, Jean-Marie Vianney, on se retrouve, je pense... il faut dire aux Africains que quand on se réveille tôt, ils doivent aussi être réveillés.
Ah, les Africains sont réveillés. Les Africains sont réveillés à double pays, ils sont là, ils nous écoutent.
Il y a quand même un proverbe qui dit que c'est qui se réveille très tôt. Donc nous, on se réveille tôt au nom de l'Afrique.
Voilà. Alors, on écoute cette première chanson, Guerre civile, de Alpha Blondy, tirée de l'album Isaac Rabin.
Ok. Merci à Marjorie.
Ce pouvoir absolu corrompt absolument. Ce président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois. Ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, ôte-toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile.
La démocratie bananière pour la République bananière. Nous disons bonjour à Madame Nathalie Mondem. Madame Mondem, bonjour et bienvenue à l'émission africaine.
Bonjour, merci.
Alors, vous organisez, vous allez tenir une conférence cet après-midi au Collège Dominicain.
Oui, tout à fait.
Et voilà une conférence qui va se passer ce samedi. Le 19 avril, à 15h, au Collège Dominicain d'Ottawa, situé au 96 rue Empress. Et c'est une conférence qui est organisée par le cercle, le centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, ce samedi, le thème. Le thème, c'est en fait un avant-goût de la conférence. L'avant-goût, en fait, ce serait l'étude des populations en Afrique postcoloniale, réflexion sur les enjeux éthiques et politiques de la recherche en développement. Voilà. Donc, expliquez-nous voir pourquoi une étude sur les populations d'Afrique postcoloniale est un sujet d'actualité, Madame Mondin, dites-nous.
Alors, d'abord, je vais peut-être faire une petite mise au point sur le terme de étude de population. Quand j'ai utilisé ça, c'était pour faire référence à une discipline bien particulière qui est, disons, soit la démographie, soit ce qu'on appelle en anglais les population studies, mm-hmm. pour lesquelles on n'a pas nécessairement une traduction tout à fait adéquate en français, donc j'ai mis études de population. Et donc ça rassemble un champ beaucoup plus large d'activités de recherche et qui porte sur toutes les dimensions de la population, ça veut dire disons, tout ce qui tourne autour des naissances, la mortalité, donc la santé, les migrations, etc. Et donc, évidemment, avec toutes les implications que ça peut avoir dans le domaine du développement et qui en font des études centrales. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui préoccupe, ou disons ce qui occupe énormément, chacun le sait, je pense aujourd'hui, les institutions et les bailleurs de fonds, c'est la question du VIH-SIDA et aussi tout ce qui tourne autour des migrations et de leurs implications. Donc ça fait vraiment partie du champ études de population. Et comme vous pouvez le voir, c'est effectivement un thème d'actualité pour bien des pays et notamment pour l'Afrique.
Et tout à fait. Et cette étude est faite sur toute l'Afrique ou une partie ou sur une certaine partie de l'Afrique? Est-ce que on parle de tout le continent ou d'une petite partie ou de l'Est ou de l'Ouest?
Quand on parle, disons que cet ensemble de recherches, d'études et en même temps donc qui donne lieu à des programmes d'intervention et d'action divers concerne évidemment tout le continent. Selon les problématiques, certains pays, certaines régions vont être plus touchées que d'autres. Par exemple, si on pense à la question du VIH-SIDA et de toutes les enquêtes qui sont menées sur la question ou indirectement auprès des populations, c'est sûr que les pays d'Afrique de l'Est et du Sud vont être davantage concernés. Mais dans l'ensemble, si on regarde historiquement, à partir du moment où les disciplines liées à études de population ont émergé, se sont développées, c'est-à-dire à partir des années 40-50, l'Afrique était vraiment, avec d'autres pays évidemment en développement, mais malgré tout, l'Afrique en particulier était au centre des préoccupations à cause de cette fameuse idée de croissance démographique, de bombe démographique, etc. Donc c'était toute l'idée, toutes les énergies étaient concentrées sur l'Afrique pour mettre en place les programmes de planification familiale et autres mesures destinées au contrôle des naissances.
Dites-nous, selon vous, quelles seraient donc, parce qu'on parle d'études, les méthodes scientifiques, académiques ou peut-être politiques, je ne veux que citer cela, ou du moins la méthodologie à suivre pour faire ces études-là?
Disons que sans doute il y a eu, ces dernières années, il y a des réflexions extrêmement critiques face à la façon dont les recherches ont été menées et aussi simplement parce que on voit bien que les politiques qui ont été mises en place ne sont pas nécessairement très efficaces, voire dans certains cas ont échoué. Et donc pour certains, dont je fais partie, c'est sûr que il y a un renouvellement de la réflexion à ce niveau-là qu'il faudrait mener, parce que sans doute on a tendance à utiliser des méthodes et des façons de catégoriser les problèmes qui sont finalement directement importés des conceptions occidentales. Et donc, à partir de là, évidemment, on se retrouve avec un problème, puisque toutes les informations que l'on a, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des institutions internationales, sont basées vraiment sur de l'information qui a été, recueillie avec des méthodes occidentales. Et ça pose évidemment un problème. Donc, il y a vraiment un renouvellement à ce niveau-là et un certain nombre d'activistes et d'auteurs dans le milieu académique s'attellent à la tâche.
Dites-nous donc, puisque nous parlons d'études de population africaine, quelle réflexion faites-vous sur les enjeux éthiques de cette problématique?
Je dirais, moi, effectivement, je vais parler plus de l'expérience que j'ai, notamment sur le terrain et d'avoir à la fois fait partie de ces enquêtes et observer un petit peu comment ça se passe. C'est certain que il existe un réel problème dans la façon dont qu'on a d'aborder les populations. Et juste pour donner un exemple, si vous pensez à certains milieux, certaines zones en milieu rural ou même dans certains milieux urbains, si on pense à des populations qui sont constamment enquêtées par toutes sortes de projets, que ce soit mené par des ONG, que ce soit mené par des groupes de recherche universitaires, étrangers ou financés par l'étranger. Vous avez donc des populations qui se posent tout simplement la question, mais à quoi sert tout ça? C'est aussi simple que ça. Et donc ça, ça pose un problème éthique parce que au fond, on se demande, je ne veux évidemment pas du tout remettre en question la, comment dire, l'utilité ou la nécessité de produire toutes ces informations, mais il y a certainement un réel problème dans la manière dont c'est fait et dans la manière dont c'est perçu par les populations. Donc là encore, il y a c'est toute la question du consentement éclairé. Qu'est-ce que c'est le consentement éclairé quand les trois quarts de la population ne savent ni lire ni écrire? Quand qu'est-ce que c'est aussi de le respect des règles éthiques si on ne fait pas une restitution systématique de tous les résultats? Bon, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là qui ne font malheureusement pas partie du calendrier de bien des programmes de recherche.
En fait, cette problématique-là, quand ces documents sont écrits, vous voulez dire, d'habitude, par les gens qui sont sur le terrain, c'est ce qui est retransmis par les gens comme nous, les gens, les hommes et les femmes des médias aussi.
Exactement.
Donc le problème, vous le dites, est peut-être fou aussi à partir de la base.
Oui, ben c'est ça, tout à fait, oui, parce que si on regarde les données qui sont, les informations qui sont accessibles, pensez au rapport de l'ONU SIDA sur la situation dans le monde au niveau du VIH-SIDA, si vous pensez aux chiffres qui concernent les niveaux de pauvreté dans le monde qui sont produits par différentes branches des Nations Unies, etc. Bon, toutes ces informations-là sont recueillies par le biais d'enquêtes auprès des populations. Et encore une fois, c'est exactement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans bien des cas, les questions qui sont posées ne font pas nécessairement de sens pour ces populations qui, elles, sont contraintes à diverses, qui sont plus contraintes par leur quotidien et ne voient pas du tout l'utilité ou l'intérêt pour elles de ces enquêtes. Et de toute façon, depuis le temps qu'on leur promet que c'est pour leur bien, ne voient pas nécessairement des améliorations. Donc, et nous, médias, ou disons au niveau ici des médias, on n'a pas nécessairement la capacité ou le temps ou la formation tout simplement pour réanalyser tout ça
et remettre ça dans son propre
tout
contexte
en fait.
On vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous écoutez, nous sommes en communication, en entretien avec madame Nathalie Mondin, qui ce samedi 19 avril au collège dominicain qui est situé au 96 rue Impresse à Ottawa, vous serez la conférencière d'études des populations en Afrique postcoloniale, réflexion sur les enjeux éthiques et politiques de la recherche en développement. Avant de vous laisser partir, Madame Mondin, dites-nous, les politiques de la recherche en développement en Afrique, selon vous, qui devrait les établir et pourquoi?
Ah, c'est une bonne question. Je suis pas sûre de pouvoir vraiment y répondre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que au niveau des chercheurs locaux ou des personnes qui agissent localement, donc dans différents pays africains, mm-hmm. C'est sûr que il y a cette prise de conscience. Elle est très présente. Et donc certainement que au niveau de la constitution, disons du recueil d'informations et des discussions avec les décideurs politiques, c'est certainement à ce niveau-là que les choses vont évoluer avec une espèce de reprise en main finalement par les personnes qui sont formées soit localement, soit qui ont été formées à l'extérieur, mais qui ne veulent pas nécessairement tout simplement plaquer leur formation qu'ils auront eue à l'extérieur. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y aura vraiment un renouvellement.
Mm-hmm. Et alors, pour terminer avec une note positive, qu'est-ce qu'on dirait par rapport aux enjeux, par rapport à ce sujet?
Mais je pense justement que pour poursuivre ce que je viens juste de dire, c'est ce renouvellement de la réflexion. Il se trouve à différents niveaux. Il se trouve à un niveau académique dans les pays du Nord, comme ici par exemple. Il se trouve au niveau au niveau local, avec une réelle volonté de prendre un petit peu le contrôle de toutes ces ces démarches à la fois de recherche et donc qui mènent directement à des politiques. Alors c'est sûr que le problème, c'est qui finance tout ça. C'est toujours l'éternel problème. On n'a jamais les mains complètement libres dans ces situations-là. Mais moi, là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de positif, c'est que on sent un élan vraiment de réflexion à ce niveau-là et de volonté de renouveler un petit peu les approches qu'on a eues jusqu'à présent. Donc ça va certainement pas se faire du jour au lendemain, mm-hmm. mais je pense vraiment qu'on est à un tournant à ce niveau-là.
Voilà, donc c'est peut-être aussi l'une des raisons d'être des centres de recherche pluridisciplinaires sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, ce genre d'organismes et les autres, en fait.
Oui, tout à fait.
Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. On vous donne 10 secondes pour le mot de la fin. Mais sinon, on voudrait vous remercier déjà au nom de toute l'Afrique de servir, de nous apporter ça comme ça, des sujets aussi brûlants et aussi intéressants. Et on demande à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent et ceux qui prendront le message plus tard, d'assister à cette conférence.
Et je vous remercie aussi et j'espère qu'on aura des échanges développé pendant cette intervention cet après-midi.
Voilà. Écoutez, c'est toute l'Afrique, Madame Nathalie Mondin, qui vous dit merci d'être passée à l'émission Afrique Plus.
Merci à vous.
Allez, bon matin. Au revoir. Voilà, il est 7h28, vous écoutez Afrique Plus. Nous vous disons merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Nous sommes à Ottawa. Ottawa dit bonjour. À Montréal, nous parlons avec le professeur Paul Kanabi. Monsieur Kanabi, bienvenue à l'émission africaine.
Merci.
Alors, monsieur Kanabi, en janvier 2008, vous étiez le porte-parole de la diaspora UND par rapport à la conférence de paix, de sécurité et de développement du Nord et du Sud de Kivu. Dans cette lettre, vous exprimiez votre mécontentement. Pourquoi? Expliquez-nous pour que nous comprenions la problématique.
Voyez-vous, l'ethnie Hunde, dont je fais partie, est une des ethnies situées dans la province du Nord Kivu, mm-hmm. région où sévit la guerre depuis 1996, guerre qui avait été menée par Kabila, père, avec l'aide des troupes ougandaises, rwandaises et burundaises. Ces pays voisins avaient aidé Kabila à renverser Mobutu. Mm-hmm. Et lorsque Kabila est venu avec les troupes de ces pays, ils ont procédé au massacre de plusieurs personnes, dont des Hutus, et certains groupes ethniques congolais, dont Hunde. Pratiquement depuis 1996 jusqu'à ce jour, la guerre n'a pas cessé. Dans la région habitée par les Hunde, plus particulièrement dans le Masisi. Parce que la tribu Hunde habite la portion de la zone du territoire de Masisi, Rutshuru, Kale. Et les autochtones de cette partie du pays sont toujours en guerre avec des Rwandais. Et les Rwandais sont constitué par des Hutus et des Tutsis. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire du Rwanda et du Burundi, vous constaterez que ces deux pays, leur histoire a été jalonnée par des guerres fratricides des Hutus et des Tutsis. Et selon que ce sont les Hutus ou les Tutsis qui sont au pouvoir, on a toujours reçu des réfugiés. Supposons que ce soit les Hutus qui sont au pouvoir, les Tutsis s'étaient réfugiés au Congo, et quand les Tutsis ont pris le pouvoir, les Hutus se sont réfugiés au Congo. Alors, le conflit qui a toujours sévi et qui a toujours opposé les Hutus aux Tutsis s'est transposé au Congo.
Voilà. Dites-moi, pourquoi selon vous, parce que vous parlez de les Tutsis et les Hutus du Burundi et du Rwanda, ce livre est-il bataille en République démocratique du Congo? Pensez-vous que le conflit au Kivu est exogène, comme vous l'expliquez dans votre lettre?
C'est un conflit exogène, effectivement, parce que, voyez-vous, d'ailleurs, quand on dit Tutsi Congolais, patati et patata, je ne sais pas pourquoi on dit Tutsi Congolais, il n'y a pas de Tutsi Congolais. Les Tutsi qui sont au Congo sont des Rwandais, ils ne sont pas des Congolais. Kunda Batware, par exemple, c'est lui qui mène la guerre au Nord Kivu sous prétexte que les Tutsis sont traqués de toutes parts par les Congolais. Les Rwandais, comme tous les autres Rwandais.
Est-ce que les Tutsis sont traqués? Est-ce qu'on fait la chasse à ces gens ou pas?
Non, pas du tout.
Ok.
Pas du tout. Voyez-vous, les Tutsis sont des dominateurs. Voyez-vous, où qu'ils se trouvent, ils disent toujours, ils jouent à la victime. Au Rwanda, au Burundi, au Congo, en Ouganda, les Tutsis se disent toujours victimes.
Pourquoi vous dites ça?
Voyez-vous?
Pourquoi vous dites ça, professeur? Ils ont quand même été... Lors du génocide, ils ont quand même été beaucoup tués. Là.
Est-ce que vous savez, vous pouvez me lire le rapport d'un avocat espagnol, qui je sais qu'il y a eu des règlements de comptes, ils ont été victimes. Ce n'était pas seulement des Tutsis qui ont été des victimes, des Hutus aussi. Kagame, parce qu'à l'époque, l'ancien président du Rwanda, Habyarimana, avait accepté le débat démocratique, c'était déjà en cours.
Oui, les accords d'Arusha étaient signés quand même, ils revenaient d'Arusha.
Oui, c'était signé, mais Kagame continuait toujours à guerroyer, alors que l'autre était consentant pour jouer le jeu. Mais Kagame avait un calcul politique, il savait que si on jouait le jeu démocratique, le nombre lui était défavorable. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais abandonné la guerre. Voyez-vous, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, au Congo, les Tutsis disent toujours qu'ils sont victimes. Ils ne sont pas victimes. Je vous donne comme preuve. Pendant 12 ans, Mobutu avait pris un Tutsi comme directeur de cabinet au moment où le Congo n'avait pas de premier ministre. Donc, à l'époque, ce Tutsi a joué pratiquement le rôle de premier ministre. Kengo Adondo.
Oui,
Kengo Adondo est un élément Tutsi. Il a été longtemps Premier ministre, trois fois. Et dans l'armée actuelle, au Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu, la plupart des officiers sont des éléments Tutsi. Alors on ne va pas, qu'ils ne disent pas qu'ils sont traqués de partout. Ils veulent être plus égaux que d'autres.
Mm-hmm. Dites-moi, professeur, comment régler l'équation Nkunda quand nous savons qu'il est l'obstacle à la paix dans la région du nord ou du sud Kivu?
Tant que la communauté internationale n'imposera pas les mêmes conditions qu'elle avait imposées au Congo, à savoir que les différents adversaires s'assoient sur la même table, Nkunda restera toujours très fort parce qu'il a toujours été épaulé par Kagame. Donc, la solution demeure sur une table ronde autour de laquelle les Hutus et les Tutsis, à savoir Kagame, et les Itéramois qui sont au Congo, se mettent sur une table et discutent. Et que la communauté internationale impose ces conditions-là à Kagame.
Est-ce que vous êtes sûr qu'une équation comme celle-là fonctionnerait?
Pardon?
Est-ce que vous êtes sûr qu'une équation comme celle-là marcherait dans la région? Est-ce que ça serait une solution pour la paix?
Oui, ça marcherait.
Et puis les forces en présence sont prêtes pour...
Les Hutus sont... Oui, les Hutus sont disposés. C'est Kagame qui ne veut pas.
Pourquoi vous dites qu'il ne veut pas?
Je viens de vous dire que si Kagame accepte la négociation avec les Hutus, la loi du nombre va lui être défavorable. La démocratie dont on parle au Rwanda n'est pas une démocratie, c'est une démocratie autoritaire.
Dites-moi, il y a quelques années, j'avais une interview avec le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo, M. Kanunu, en fait. Je ne sais pas si...
Oui, Kanunu, je le connais.
Voilà, il disait que la démocratie au Rwanda était une démocratie génocidaire, c'est comme ça qu'il disait. En fait.
Effectivement. C'est une démocratie génocidaire. Les gens ne sont pas libres, les gens ont peur. Moi, j'ai été au Congo l'an dernier, et j'ai constaté comment... la population avait peur, même à Goma où j'étais, la population congolaise avait peur.
De quoi les gens ont peur, selon vous? Vous qui êtes, vous connaissez le terrain, vous connaissez les enjeux.
Parce que c'est qu'on les veuille ou non. Voyez-vous, on avait organisé les élections pensant que les élections allaient ramener la paix. Et les éléments Tutsi, dirigés par Rouberoy, disaient que Kabila perd. Et son fils qui lui a succédé était des dictateurs et que seules les élections allaient ramener la paix parce que la population s'est prononcée. La population s'est prononcée et le FCD, qui est encadré par des éléments Tutsi, n'a pas eu un seul député. Un seul député au niveau national. Et on craignait. Moi, j'avais déjà même écrit que les élections n'allaient pas résoudre le problème parce que la voix des urnes l'avait démontré, avait confirmé ce que j'avais prévu. Et c'est pour cela que Nkunda Batware continue. Alors finalement, à quoi ont servi les élections? Parce que même l'institution démocratique prévue à cette fin, notamment le Parlement, a même été écartée pour organiser la conférence de la paix de Goma. Et c'est ce qui m'a révolté. Pourquoi ne pas soumettre la problématique au Parlement congolais? Pour que le Parlement congolais parle de cette problématique. Et également à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et du Sud Kivu. On les a écartés. Sur quelle base on a désigné les gens qui allaient discuter de la problématique? On ne sait pas. Jusqu'ici, je ne sais pas. C'était le gouvernement qui a décidé les gens qui devaient être présents, qui devaient décider du sort de cette province. Vous voyez, ils ont signé les accords de la paix, mais encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Nkunda Batware a méconnu sa signature. Donc, on revient à la case de part.
Oui. Et la situation n'a pas changé. Mais est-ce que vous avez eu un écho de cette lettre? Est-ce que vous avez des échos? Parce que vous l'avez quand même adressé au président du Sénat, au président de la Chambre des députés à Kinshasa, au premier ministre, au ministre des Affaires étrangères à Kinshasa, au ministre de l'Intérieur, Défense, au gouverneur du Nord Kivu à Goma, gouverneur du Sud Kivu à Bukavu.
Je n'ai pas eu d'écho, mais seulement sur une base informelle. Mm-hmm. Des amis m'avaient dit que ça, on avait répercuté mon message à Radio Okapi. Mm-hmm. Mais sur la voie officielle, non, je n'ai pas eu d'écho, il n'y a pas eu de réaction.
Mm-hmm. Oui. Dites-nous en quelques mots, ce samedi, le 19 avril, il y a une conférence à l'Université Saint-Paul qui a pour thème médias et négationnisme.
Médias
et négationnisme. Donc, oui. Pour parler de la problématique du Rwanda, est-ce que vous pensez qu'il y a, une tendance, les gens de plus en plus deviennent négationnistes par rapport au génocide qui s'est passé au Rwanda?
Vous savez, c'est un problème délicat. Parce que moi, j'entends par génocide une planification. Un acte délibéré pour tuer un certain groupe de personnes ou bien une certaine ethnie. Dans le cas du Rwanda, moi non plus, je n'ai jamais considéré ça comme un génocide. Celui-ci a eu lieu après coup. Parce que lorsque l'événement s'est produit, on venait de tuer trois présidents dans la région. Et les trois présidents étaient par coïncidence des Hutus. Et ceci a déclenché une réaction spontanée, un réflexe des Hutus en disant, mon Dieu, ils ont tué deux présidents au Burundi et le nôtre. Donc, ces gens vont aussi continuer à nous tuer. Donc, la réaction a été après coup, pas de manière délibérée.
Donc, 14 ans après, quand même, vous êtes d'accord avec nous qu'il y a pas, on connaît pas plus de qui a abattu l'avion, qui.
Moi, je reste formel que c'est Kagame qui a abattu l'avion d'Abiarimana. D'ailleurs, deux de ses collaborateurs, dont j'oublie le nom, ont écrit un livre à ses propos. Et il y a un avocat espagnol qui est passé ici à Montréal il y a un mois, l'a réconfirmé.
Mm-hmm. Oui. Alors, en terminant, quelles peuvent être les éventuelles pistes ou voies de solution pour la véritable paix dans la région des Grands Lacs?
Comme je vous ai répété tantôt,
oui.
Tant que Kagame sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix au Congo. Donc, moi je lance un appel à la communauté internationale, en général, et le gouvernement canadien, moi en tant que Canadien, j'implore au gouvernement des Canadiens pour que celui-ci exerce des pressions sur d'autres pays, qu'on amène Kagame à s'asseoir sur la même table avec des leaders Hutus. En dehors de ça, il n'y aura pas de paix, ça va rester une poudrière, la région de l'Est du Congo.
Voilà, professeur Paul Kanambi, on vous donne 30 secondes pour vous adresser. Vous avez passé votre message aux Canadiens. Maintenant, on voudrait que vous parliez aux Africains en 30 secondes. Dites-leur ce que vous voulez leur dire.
Ah, les Africains, la diaspora africaine au Canada, je lui demande de toujours rester vigilante et de ne pas tourner le dos à ses pays d'origine. Qu'on soit au Canada ou pas, il faudrait que la diaspora exerce des pressions sur ses députés, parce que tout Africain ici au Canada doit beaucoup à son pays. C'est ces pays-là qui nous ont élevés, donc nous leur devons une dette. Nous devons servir beaucoup la cause de nos pays. L'Afrique en général, tout le continent, souffre de la fin de la démocratie.
Mm-hmm. Alors, juste une question comme ça, en cours de chemin, est-ce que vous pensez pas que après les gens diront que le professeur Paul Kanambi est un négationniste?
Qui le dit, ils ont droit à leur opinion.
Voilà. Écoutez, professeur, nous, c'est toute l'Afrique à Ottawa, oui. Et qui vous dit merci de votre collaboration à l'émission africaine.
D'accord.
Et j'espère que nous resterons en contact.
D'accord. Bon. Merci beaucoup. Bon. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à la conférence dont on venait de me parler?
La conférence, il faut être à l'université Saint-Paul, c'est le 223 rue Main.
Oui.
Ici. Et c'est de 15h à 18h, conférence à l'Université Saint-Paul, c'est ce samedi. Le thème de la conférence est « Médias et négationnisme », ce serait tenu par M. Alan Thompson et Mme Maryse Birmingham.
Est-ce qu'on peut l'avoir sur Internet?
Je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais je pourrais m'en informer et peut-être après l'émission vous en donner plus de détails.
D'accord.
Ok.
Merci beaucoup, Jean-Marie.
Ça marche, je vous en prie.
Au revoir.
Reparti, nous sommes de Ottawa. Oui, dis bonjour à Calgary. Oui, bonjour, monsieur Mulumba.
Oh, monsieur, vous avez rien, comment ça va?
Alors, cette chanson vous rappelle bien des choses?
Bon, alors, des souvenirs quand même, c'est ça.
Alors, nous étions de Calgary, nous sommes partis à Ottawa, d'Ottawa, nous sommes partis à Montréal, et là, nous venons à Calgary. Nous étions avec le professeur Kanambi on vous rappelle que nous sommes maintenant avec M. André Mulumba en direct de Calgary. C'est le tour. C'est ça, Afrique.
Voilà, je suis à Calgary. Il est presque 5h44 ici. Alors, on s'est réveillé tôt pour l'émission africaine. Alors, donc à la une de la presse africaine, il y a par exemple Fraternité Matin qui sort ce week-end avec une photo à la une, le président ivoirien. Et le montre aux Nations Unies où il a affirmé notamment que la crise se termine en Côte d'Ivoire et qu'il y aura les élections comme prévu. Alors, l'Inter d'Abidjan s'intéresse à Guillaume Soro. Le Premier ministre ne se présentera pas aux élections trop jeune. Alors, qu'est-ce qui va arriver de son avenir? Les journaux pensent qu'il va peut-être briguer un mandat en tant que député représentant la région d'où il sort. Quand il sera par exemple président de l'Assemblée nationale, de là il pourra poser sa candidature plus tard.
Mais c'est quand même surprenant que Mulumba, on dit c'est la première fois que j'écoute ça, qu'il est trop jeune.
Bon, alors on ne sait pas, c'est peut-être une stratégie. Bon, on s'est fié un peu à ce que les journalistes rapportent.
Moi, j'essaie de raisonner un peu comme un Africain. C'est quand même quelqu'un qui a combattu, qui a fait tuer des gens quand même pour arriver au pouvoir, pour le pouvoir. Et là, où il faut aller aux urnes pour montrer la vraie force qu'il vaut. Et on dit qu'il est trop jeune. Combien de gens sont morts parce qu'ils croyaient en ce qu'il leur disait quand même?
Bon, en fait, disons que c'est la date est fixée pour le 30 novembre, la date du premier tour des élections. Bon, selon les journalistes, il ne va pas se présenter qu'il est trop jeune. Bon, il faut voir que quand on a déjà combattu, on a été dans les rangs des maquisards.
Et donc, on a déjà eu le sang entre les mains. Oui.
C'est ça, oui.
Mais c'était quoi? C'est bon, en tout cas, ça dépasse mon entendement, mais bon, c'est l'actualité, c'est parfois ça aussi. Le prochain point, André Mulumba.
Bon, le prochain point, est-ce la presse congolaise qui revoit à la baisse le nombre de personnes mortes dans le crash du DC-9 à Goma. Alors, les quotidiens, l'avenir indique que 34 corps ont été enterrés cette semaine et qu'il y a plus d'une centaine de blessés. Alors, de son côté, le journal Le Phare, autre quotidien de Kinshasa, rappelle les autres catastrophes aériennes. La plus meurtrière, il faut dire, c'est celle qui a fait 500 morts à l'aéroport d'Ndola il y a encore quelques années. Et le journal soulève aussi les problèmes de la corruption dans les pays, parce que chaque fois lorsqu'on met des commissions pour traiter les cas de sécurité aérienne, il y a toujours l'argent qui circule et puis n'importe quelle compagnie peut s'implanter dans les pays sans que l'on prenne de mesures appropriées pour la sécurité des personnes voyageant.
Et en fait, j'ai aussi un article ici avec moi, la visite du président russe en Libye. Est-ce que c'est une visite stratégique pour les relations bilatérales? Le président russe Vladimir Poutine a terminé jeudi sa visite de 2 jours en Libye, qui est historique et stratégique, selon son homologue libyen Mouammar Kadhafi. A-t-il appris, on dit que les médias russes ont rapporté que M. Poutine était satisfait de la visite, la première effectuée par un président russe en Libye, au cours de laquelle 10 accords ont été signés et les deux dirigeants se sont mis d'accord pour renforcer leur coopération politique, économique, militaire, bien entendu. Et en parlant de Kadhafi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? André Lumba, c'est à toi.
Bon, voilà. Alors, il y a les journaux Mutation, par exemple, qui soulèvent aussi des problèmes qui se passent au Cameroun. Vous savez que Paul Biya, bon, moi j'ai dit que c'est Paul Biya qui a changé la constitution, parce que les députés de son parti qui ont décidé de changer la constitution camerounaise pour qu'il n'y ait pas limitation de mandat présidentiel, pour l'ont en fait légitimement encore une fois de rester au pouvoir pour longtemps. Et là, John Fundi, le grand leader de l'opposition camerounaise, a lancé une journée d'idée nationale. Bon, il appelle ça que c'est une idée nationale parce que la mort de la démocratie au Cameroun. Donc pour le moment, Paul Biya va rester éternellement au pouvoir, parce que personne ne va l'empêcher encore de se représenter aux prochaines échéances présidentielles.
Il faut quand même rappeler qu'il a été dans les sillages du feu président Ahidjo. Donc il a été le premier ministre. Donc ça fait, c'est un peu après Abdou Diouf qui a fait la même chose avec le président Senghor. Je pense que Paul Biya, il est en train de prendre le flambeau très haut là. En fait.
Oui, c'est ça. À noter aussi que les journaux camerounais rapportent que l'unique fille de Paul Biya fait ses études primaires en Suisse au collège Le Mans. Je pense qu'il a vécu en Suisse, que tu connais peut-être.
Je connais pratiquement. Il est en train de prendre des études de diplomatie en fait.
Oui, alors sa fille s'appelle Anastasia Brenda Eyanga Biya. Alors c'est là qu'elle fait ses études. Il faut dire que Biya est marié en seconde noce à Chantal au chéri Vigouré, ce qui a ils ont eu 2 enfants.
Oui.
Anastasia, l'autre gars aussi. Alors cette dernière, Brenda Eyanga Biya, est inscrite au 6e grade, donc en Suisse. Le niveau de connaissance de la langue anglaise de la fille de Biya est aussi faible, alors qui sait, comme tu dis, qu'elle fait des études de diplomatie, donc c'est juste pour la rendre aussi plus polyvalente sur le plan international, si demain, par exemple, elle est nommée ministre ou quelque chose comme ça s'est fait dans tous les gouvernements africains.
Tout à fait. On a une dépêche ici, les relations canado-rwandaises. Un ministre rwandais se dit insulté par le Canada. Donc, le ministre rwandais de la jeunesse et de la culture et des sports, Joseph Habineza, dénonce une directive d'immigration Canada qui oblige tout Rwandais désireux d'obtenir un visa d'entrée au Canada de préciser son origine ethnique. Selon le ministre, la demande du gouvernement canadien est insultante, d'autant plus que c'est sur la base de cette différence mise dans mise de l'avant par les colonialistes belges qu'a été commis le génocide de 1994 entre Hutu et Tutsi, André Mulumba.
Bon, mais il faut dire à l'intérêt du Rwanda qu'ils ont cessé, ils ont cessé de s'appeler Hutu Tutsi. Je pense que récemment, tu as assisté à une conférence quand tu cherchais à poser des questions. Quelques gens te demandaient de ne pas poser certaines questions. Donc, c'est très facile de s'adresser aux autres gens marivianais, mais il faut voir ce qui se passe à l'intérieur de nos propres pays. Donc, à l'intérieur de l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait aux autres, c'est ça.
Le 28e anniversaire, André Mulumba, 28e anniversaire de l'indépendance du Zimbabwe, le président Mugabe rappelle quelques vérités à la Grande-Bretagne. Et bon, c'est nous qui avons apporté la démocratie à ce pays, et c'est nous qui avons mis un terme à l'oppression britannique qui existe et qui existait. En fait, c'est ce que Mugabe dit, mais je pense qu'André Mulumba, tout le monde est d'accord, tu me disais encore cette semaine que il est temps pour Mugabe de jeter la clé et puis de jeter les points et de partir.
Il y a plus de 25 ans à la tête d'un pays, et puis le pays est presque à terre. Quand on en parlait, je vais en parler avec toi, il y a une inflation qu'on n'a jamais à travers la planète. Dans aucun pays, l'inflation vraiment qu'on a au Zimbabwe est incomparable. Et la situation économique est vraiment catastrophique. Et le plus encore grand point, c'est qu'il a échoué aux élections. Je ne pense pas que dans une situation pareille, jamais revenait que Mugabe ait réussi. Et je lisais encore ce matin que les recomptages des bulletins de vote a encore commencé au Zimbabwe. Donc, il se peut que le gouvernement pense qu'il y a une irrégularité, mais le problème, c'est que tous ceux qui ont travaillé dans ces bureaux de vote, ce sont quand même les membres de son parti politique. Donc, c'est juste un cliquage pour s'accaparer encore du pouvoir et rendre encore la vie plus dure au Zimbabwe, parce qu'il sait que il y a des millions de Zimbabwéens qui ont fui le pays. Mais quand même, j'en ai, après avoir dirigé plus de 25 ans, on peut quand même se reposer.
Tout à fait. C'est ce qu'en temps normal, quelqu'un penserait, mais en Afrique, même nos leaders ici à Ottawa, André Mulumba, c'est quand même des leaders qui commencent à vieillir, il faut le dire, mais qui refusent de passer le relais à la nouvelle génération. On les a assez vus quand même, ils sont assez, je ne vais pas les citer, mais je peux même les citer, mais on les a assez vus. Tous ils sont postés derrière le soit organisation, soit derrière ce qu'ils font, sans pouvoir avoir le réflexe de passer le témoin, de faire à ce que les autres aussi puissent raconter l'histoire. Ça se fait en Afrique, ça se fait aussi ici, André.
Bon, ça se fait partout ailleurs, mais le cas du Zimbabwe, c'est un cas tout autre, parce que pour le moment, la situation économique du pays, c'est catastrophique, le Zimbabwe, parce que si les stations d'essence sont fermées, les magasins sont vides, et même si il y a de la nourriture dans les magasins, mais le pouvoir d'achat est extrêmement faible, parce que chaque jour, par exemple, je te disais encore la fois passée, tu peux acheter un pain, par exemple, à 2 dollars, c'est un exemple que je donne, et demain, ça coûte, après 2 heures, ça coûte 6 dollars, après une journée, ça coûte 10 dollars. Alors, avec tout cela, il n'y a que ceux qui sont au gouvernement qui survivent très bien. Mais, on ne sait pas. Le problème, c'est que le pays voisin du Zimbabwe ferme les yeux. Mbeki est devenu tout autre. Il soutient Mugabe dans tout ce qu'il fait. Bon, il n'y a plus d'argent que la communauté internationale envoie dans ces pays-là, donc la population est complètement sacrifiée.
Alors, André Mulumba, si vous permettez, on fait une petite pause, et puis on vient pour la fin, la conclusion de l'émission. En fait.
Voilà.
Africa, Africa, Africa,
je t'aime.
Afrique Plus, c'est l'Afrique positive. Afrique Plus, c'est l'Afrique avec des Africains conscients de leur avenir. Afrique Plus, c'est enfin l'Afrique d'ici, de la diaspora et celle du continent. Bref, l'Afrique en trois dimensions. Chaque samedi de 7h à 8h sur les ondes de CHU 89.1 FM, Jean-Marie vous amène l'Afrique à Ottawa.
Dimanche, il faut que tout le monde vienne pour qu'ensemble on s'amuse, parce que ça va être un show époustouflant. Donc, venez, comme on le dit, avec Magic System, tout le monde aura la maladie du bouger-bouger, personne ne va s'asseoir. Salut, moi c'est Asalfo du groupe Magic System. Si tu veux pas être Gaou, écoute la radio de l'Université d'Ottawa. C'est ça qui est la vérité.
Voilà.
Ouais, dimanche, voilà, dimanche 6 avril. Ouais.
Merci beaucoup Asalfo, on a hâte de te voir.
Allez, merci beaucoup.
Voilà Ndoum Lumba, on est là, on est de retour avec toi.
Oui, bon, on va conclure l'émission avec la mort de M. Césaire. Je pense que toute la presse francophone d'Afrique rend hommage à ce grand homme martiniquais. Je pense que tous les Africains qui ont fait les humanités sur le continent africain, ils connaissent M. Césaire.
Voilà, André Blumba. Donc, c'est tout ce qu'on avait prévu ce matin. C'était tout pour Afrique Plus. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, écrivez-nous à AfriquePlus.1 à commercialrogers.com. Et alors, on va vous écrire, on va vous répondre. Allez, soyez branchés sur la communauté, c'est samedi. Et on vous laisse entre les mains de Mike Mouchaïla qui est déjà là avec l'émission Ici l'Afrique, sur CHUFM. André Mouloba, le mot de la fin.
Voilà, bonjour à tout le monde et puis on se reparle encore.
Au revoir.
Mwititi muni guru marenge yae Nyanusaki mwasito kisane Opa bukinemba ae Gai mbuwe pupa Gai weya lowe imende Bobby sema tanga manyu Morera jangwa moi motele betukan Ganto wae
Ganto wa ganto mo ganto nunu no kibi tumse ni wala onge alono mopabukimba ganto wa Dana.